2023 nous permet de marquer de nombreux anniversaires au cours de ces 70 dernières années de Formule 1. Vettel, Schumacher, Prost, Piquet, Stewart, des légendes qui ont remporté des saisons tout aussi marquantes pour des raisons que nous allons passer en revue. La dernière fois, nous revoyons comment Alberto Ascari s'imposait comme le numéro 1 absolu de la catégorie en enregistrant des records qui laissaient difficilement présager qu'il était possible de faire mieux. Et Ascari détient d'ailleurs encore un impressionnant palmarès, d'autant plus quand on considère que ses deux saisons de domination avaient moins de grands prix réunis qu'une seule saison de 2023. Il avait 9 victoires consécutives en Grand Prix, un record que Vettel aura mis 60 ans à égaler, et il est confortablement dans le top 10 des pilotes avec le plus de hat-trick. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 1963 et à la figure de Jim Clark, un pilote que certains considèrent encore aujourd'hui comme le meilleur de tous les temps, une opinion qui a de solides arguments, et on va en voir une partie dans cette émission. Comme la dernière fois, on va présenter aussi efficacement que possible chaque détail important de cette saison 63 afin de mieux apprécier le déroulement de l'histoire de cette saison. Une petite mise à jour, bien évidemment, depuis la dernière fois, je rappelle qu'en 52 et 53, on imposait la réglementation de Formule 2 au championnat de Formule 1 afin de réduire les accidents mortels avant de revenir à des cylindries à 2500 cm3 quelques années plus tard. Bon, et ben maintenant, depuis 1961, on a renommé la réglementation Formule 2 en réglementation Formule 1 pour réduire les accidents mortels. Donc la Formule 1 n'est plus un championnat de Formule 2, la Formule 1 est devenue la Formule 2. Cherche pas à comprendre. Pour des raisons de sécurité, on notera aussi qu'un arceau de sécurité au-dessus de la tête des pilotes est désormais obligatoire. Les moteurs suralimentés sont interdits et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur l'aspect technique, si ce n'est que le poids minimum des voitures est établi à 450 kg, soit 35 fois moins qu'en 2023. Le barème a légèrement changé aussi puisque désormais le vainqueur gagne 9 points au lieu de 8 et que le point du meilleur tour n'est plus décerné en faveur d'un point qui sera décerné au 6ème de l'épreuve. Cette saison 1963 comportera 10 grands prix et seuls les 6 meilleurs résultats comptent pour le championnat du monde des pilotes. Et aussi depuis 1958 on récompense le championnat constructeur. Le barème est le même que pour les pilotes, chaque équipe peut toujours engager autant de voitures qu'ils le veulent, mais à la fin de chaque épreuve, seule la voiture la mieux classée peut rapporter des points. On notera aussi que, depuis 1958, changer de pilote pendant une course annule l'attribution des points de la voiture. Donc il n'y aura pas de prise de tête quant à savoir qui a roulé dans quelle voiture dans cette rétrospective, contrairement à ce qu'on a vu en 1953. Mais attention, j'ai pas dit qu'il y aurait pas de prise de tête, ça va même être pire. Alors calme-toi, n'aie pas peur. Parce qu'avec l'introduction du championnat constructeur, on a vu la naissance de ce qu'on a appelé l'ère des garagistes, d'après une célèbre citation de Enzo Ferrari. Car, comme depuis les débuts du sport, rien n'oblige les équipes à engager leur propre voiture, leur propre châssis. On pouvait se ramener avec ses potes, acheter un châssis Lotus, un châssis Ferrari, leur mettre des moteurs BRM et les engager sous le nom de « Grosse Rigolade Racing ». Ça fait grrrr. Alors du calme, ça va pas impacter ton appréciation des événements de cette saison, mais entre les spectateurs avisés qui aiment connaître ces détails et les néophytes qui découvrent cette époque, j'essaie d'en donner un petit peu pour tout le monde. Comme on dit, quand on essaie de satisfaire tout le monde, on satisfait personne. Mauvaise citation. Et terminons cette introduction avec un tour des principales figures qui vont animer ce championnat 63, et commençons avec les champions en titre. Champions en titre qui sont l'incarnation même de la prise de tête de cette époque. Je vous parle du constructeur BRM qui avait gagné son premier titre avec Graham Hill au volant des P57. Hill était devenu une figure très populaire en 62 au sommet d'une lutte intense pour le titre. Après des années de galère, il est désormais le numéro 1 en Formule 1 et compte bien le rester. Le pilote américain Richie Ginter continuera à ses côtés. Mais la prise de tête est dans le fait que BRM construit ses propres châssis, ses propres moteurs, mais en tant qu'équipe, ils sont enregistrés sous le nom de Owen Racing Organization. Alors on va les appeler BRM puisque c'est en tant que constructeur qui marque des points et toutes les équipes qui engagent des châssis BRM marquent des points pour BRM, mais je te préviens. Et tu constateras que la dénomination des équipes de Formule 1 dans les années 60 puise sa longueur directement à la littérature de la Renaissance et à la musique classique Et d'ailleurs, j'y pense, pour adapter le nom de Greux, mon équipe, je pense qu'il faudrait que je l'appelle quelque chose comme Écurie Grosse Rigolade Racing by Formule Blabla et ses potes de la 3ème set. Et si la lutte mondiale était aussi palpitante, c'était grâce à un rival d'envergure pour Graham Hill et BRM, l'écurie Lotus et leur pilote Jim Clark. L'Écossais est telle l'éclatante révélation de 62, bien qu'en 61 il faisait les unes, mais pour de mauvaises raisons. Il était jugé responsable de l'accident de Monza en 61 qui avait tué Wolfgang Van Trips et de nombreux spectateurs. Mais en 62, il a vite effacé l'ardoise en faisant les unes pour son incroyable pointe de vitesse, jurant avec un pilotage extrêmement délicat. Clark avait perdu le titre lors de la course finale en Afrique du Sud à cause d'un boulon de fixation qui s'était détaché et qui avait provoqué une fuite d'huile. Pour Colin Chapman, fondateur de Lotus, la vitesse d'une voiture de course ne se caractérise pas seulement par la puissance de son moteur ou son efficacité aérodynamique, mais en maximisant tous les aspects de la voiture. Plus c'est léger, mieux c'est, disait-il. La répartition du poids étant naturellement importante, et bien c'est pour ça que Lotus était les premières voitures dans lesquelles les pilotes avaient une position presque allongée auprès du sol comme on voit aujourd'hui. Mais cette quête de légèreté venait souvent compromettre la fiabilité de ces monoplaces. L'écurie Brabham Racing Organization du double champion du monde Jack Brabham entame sa deuxième saison avec l'Australien et son ami américain Dan Gurney. L'équipe réunit deux excellents pilotes, brillant autant sur la piste que par leur savoir technique, réunissant tous les ingrédients de la réussite pour un jeune constructeur. Jeune constructeur qui engagera aussi des châssis Lotus de temps en temps. Mais pas de confusion possible au niveau des châssis chez Ferrari, qui recrute John Surtees. Septuple champion du monde moto, le Britannique avait réussi une incroyable reconversion avec Lotus, Cooper puis Lola avec quelques podiums. Il sera le seul pilote permanent de la Scuderia cette saison et sera ponctuellement accompagné du Belge Willy Meres et des Italiens Ludovico Scarfiotti et Lorenzo Bandini. Parlons rapidement de l'excellent duo Cooper, composé des jeunes Bruce McLaren et Tony Maggs, ainsi que de l'écurie Mars Bergen, du pilote néerlandais Karel Godin de Beaufort, qui engageait des châssis et des moteurs Porsche. Et on va s'en arrêter là, parce qu'il y a eu 31 équipes engagées cette saison, et on a déjà fait un bon petit tour des figures importantes. La saison s'ouvre à Monaco le 26 mai et les attentes sont lourdes pour le duo Hill et Clark, car en plus d'avoir dominé 62, ils ont aussi dominé le début de saison avec 2 victoires pour Hill et 3 pour Clark sur les 8 manches hors championnat. Et ils verrouillent la première ligne sur la grille de départ avec Clark en pole position et John Surtees 3ème. Au départ, Graham Hill prend la tête et une incroyable lutte s'engage. Clark dépasse Hill mais ce dernier le repasse immédiatement. Jim Clark va plus vite, mais Graham Hill profite d'une meilleure traction et le scénario se répète plusieurs fois. C'est au 17ème tour que Jim Clark fait le dépassement final et après quelques tours à le chasser, Hill finit par décrocher. Il se fait rattraper par un très fougueux John Surtees dans la Ferrari. La lutte continue entre les deux, mais le septuple champion du monde moto est gêné par de l'huile sur ses lunettes. Quelques tours plus tard, il s'arrête pour changer de paire, perdant ainsi la lutte face à Hill. Avec plus de 15 secondes d'avance, bien aidé par la lutte entre les Anglais, Clark a bien ralenti l'allure et il n'attend que le drapeau à damier. Mais au 78ème tour, sa boîte de vitesse se bloque et envoie sa Lotus dans le mur. Fin de course pour l'Écossais et Graham Hill mène les 22 tours restants et remporte l'épreuve devant Richie Ginter, offrant un doublé BRM devant la Cooper de Bruce McLaren. John Surtees sera bien frustré de sa 4ème place, alors que le Sud-Africain Tony Maggs est 5ème devant Taylor qui sauve un point pour Lotus. Fort de leur doublé, les BRM verrouillent la première ligne en Belgique, Hill partant devant Gurney et la Ferrari de Willy Meres locale de l'épreuve. Jim Clark est seulement 8ème sur une grille détrempée, mais il est plein de confiance. Il voit dans le pilote belge beaucoup d'anxiété et il calcule déjà son départ. En ce temps, la ligne de départ était juste avant le raidillon de l'eau rouge et les pilotes n'étaient pas alignés deux par deux comme aujourd'hui, mais par trois sur les lignes impaires et deux sur les lignes paires. En fonction des circuits, ça changeait, mais là, c'était comme ça à Spa-Francorchamps et c'est pour ça que Clark, qui est en 8ème position, est donc en 3ème ligne et juste derrière Meres, qui est 3ème à l'extérieur du raidillon. L'Écossais a tout vu venir car le Belge patine au départ alors que McLaren et Ireland sont surpris. Clark fonce immédiatement sur la droite et dépasse la Ferrari avant de prendre les commandes de la course avant le premier virage. De 8e à 1er en une courte ligne droite, Jim Clark a la rage de sa défaite à Monaco et signe un des plus beaux départs de toute l'histoire de la F1. Après 5 tours sur le long tracé belge de 14 km, Hill tient la seconde place à 7 secondes de son rival. Derrière, Brabham est à 44 secondes devant Surtees et McLaren. Hill fait son maximum, mais 10 tours plus tard, l'écart a triplé. Dan Gurney, désormais 3e, est à 1 minute de la tête de course. Graham rend finalement les armes lorsque sa boîte de vitesse de sa BRM lâche et Clark écrase la concurrence comme jamais. Mais voilà, à la mi-course, sa boîte de vitesse a sauté. Il avait 2 minutes d'avance sur Dan Gurney à ce moment-là. L'Écossais n'a plus le choix, il complète le tour avec une main bloquée sur son levier de vitesse et l'autre pour amener sa Lotus, mais finalement, il rentre pas au stand. Il continue encore un tour. Un tour à Spa-Francorchamps dure environ 4 minutes avec une vitesse moyenne de 200 km/h sur une route de campagne bosselée avec énormément de dénivelé. Allez, encore un tour. Et encore un. Et ça y est, Jim Clark a complété le 451e et dernier kilomètre du Grand Prix de Belgique et remporte la course. Puis le silence. On attend le deuxième. La course de Dan Gurney est terminée. L'Américain est 3e à un tour de Clark et il prend au passage le premier des 124 podiums de l'écurie Brabham. McLaren ramène sa Cooper Climax 4 minutes et 54 secondes après que Jim Clark a gagné la course. Si ce n'était pas pour le Grand Prix du Portugal 1958 où Stirling Moss gagnait avec 5 minutes 12 d'avance sur Mike Hawthorne, eh bien ce serait le plus grand écart entre le premier et le deuxième de toute l'histoire. Mais c'est une chose de creuser un tel écart sur le tracé urbain de Boavista, c'en est une autre de le faire à Spa-Francorchamps en pilotant la moitié de la course avec une seule main. On savait qu'il était phénoménal, mais en ce jour, Jim Clark vient réclamer haut et fort le statut de meilleur pilote automobile du monde, faisant trembler des noms légendaires comme ceux de Fangio, Moss ou même Ascari que nous connaissons désormais si bien. Une victoire partout et un nouveau doublé en qualification pour Hill et Clark et une nouvelle pole position pour Jimmy Boy à Zandvoort, devant Hill et McLaren et 3e devant Brabham et Surtees. L'Écossais s'envole au départ pendant que Hill et Brabham se disputent la 2e place. Le Londonien remporte le duel alors que l'Australien abandonne plus tard dans la course. Même débarrassé de son adversaire, Hill ne parvient pas à rattraper Clark et doit même passer au stand lorsque son moteur surchauffe. Surtees prend la 2e place, mais commet une erreur et offre la position à Dan Gurney et ce sera notre podium néerlandais alors que Jim Clark enregistre, avec le meilleur tour, le second grand chelem de sa carrière, Ines Ayrland prend la 4e position devant Richie Ginter qui inscrit les seuls points de BRM ce jour-là. Ludovico Scarfiotti prend son premier point en Formule 1 avec Ferrari pour son tout premier Grand Prix. C'est à le détester. De toute l'histoire, ils sont 3 à avoir réussi. Alberto Ascari, Sébastien Vettel et Jim Clark. 2 grands chelems consécutifs que chacun a enregistrés dans des saisons de pure domination, 1952, 2013 et 63. Après qu'il a verrouillé la pole position, encore une fois devant Hill, ce dernier cale au départ et doit se faire aider par ses mécaniciens pour partir. En 5 tours, Clark a déjà 8 secondes d'avance sur Gurney, Brabham et Surtees. Victime d'une perte de puissance moteur, Clark compense dans les virages rapides où sa Lotus et lui sont plus agiles. Preuve de la domination de la Lotus 25, Trevor Taylor se débarrasse de Gurney et menace Brabham avant de voir un problème de transmission. Avec un dépassement dans le dernier tour, Tony Maggs prend la 2e position pour Cooper alors que Hill sauve le podium dans sa nouvelle BRM P61 qui semble problématique. Brabham termine devant son coéquipier Dan Gurney alors que Josipher prend un très beau point pour son équipe privée qui engage des anciennes Lotus 24 avec un moteur BRM. Graham Hill sera bien heureux de retrouver sa BRM P57 à Silverstone et il le prouve en enregistrant le meilleur tour de la première séance de qualification le jeudi matin avec Jack Brabham enregistrant un temps exactement similaire en 1 minute 36. Il améliore de 4 dixièmes lors de la 2e séance mais Jim Clark trouve une seconde complète en moins et prend sa 4e pole de la saison. Graham et BRM ont du boulot. Mais ouf, l'Écossais rate son départ et ce sont les Brabham de Brabham et Gornet qui prennent la tête devant la Cooper de McLaren et la BRM de Hill. Mais Jimmy Boy ne perd pas son sang-froid, dépassant coup sur coup Hill, McLaren et Gurney le tour suivant, et Brabham ne tient qu'un seul tour supplémentaire devant la Lotus affublée du numéro 4 qui prend les commandes et creuse immédiatement une seconde d'avance. McLaren et Brabham abandonnent alors que Hill cède face à son coéquipier Ginter plus performant. Alors que Jim Clark remporte une nouvelle victoire dominante, le public anglais s'était délecté de la lutte entre deux de ses héros, Surtees gagnant le duel pour la deuxième place face à Hill. Ginter est quatrième devant Lorenzo Bandini, conduisant une BRM P57 privée, et Jim Hall dans l'écurie British Racing Partnership, engageant une Lotus P24 à moteur BRM. La nouvelle domination de Jim Clark est célébrée avec cérémonie, suite à la mort d'un commissaire lors d'une course de GT au matin du Grand Prix. Il reste 5 épreuves au championnat, et déjà, avec 4 victoires, Clark pourrait être sacré à sa prochaine victoire si Hill ne gagne pas. Il mène avec 36 points, soit 24 de plus que Richie Ginter, lequel mène Graham Hill et John Surtees de 1 point. Gurney est 1 point derrière, et McLaren encore un autre point derrière. Retour au Nürburgring qui avait vu une magnifique victoire de Hill la saison précédente. Pour donner toutes ses chances au champion du monde en titre, BRM arrive avec des améliorations sur sa P61 mais lui laisse un châssis de sa P57 de côté au cas où les améliorations ne fonctionnent pas. Bon, on est au Nürburgring, le tracé fait 23 km, il y a plus de 120 virages et les Formule 1 sont bien moins stables qu'aujourd'hui. Donc il est naturel qu'en ce temps-là, les écarts soient énormes selon nos standards modernes. Aujourd'hui, on dit qu'une demi-seconde, c'est énorme sur un tour, mais à l'époque, c'était comme 5 millièmes de seconde aujourd'hui. Bref, Jim Clark fait la pole 9 dixièmes devant la Ferrari de Surtees. Vous allez me dire, oh, bah, ça va. Avec tout ce que je vous ai donné comme contexte, 9 dixièmes, c'est pas énorme. Bon. Lorenzo Bandini, qui est troisième, est à 8 secondes 5 de la pole position. La musique se répète, Clark s'envole, mais passé quelques virages, il ralentit, victime d'une bougie défectueuse. C'est Richie Ginter qui prend la tête et Surtees la seconde position. À la fin de ce long premier tour, Clark est collé à ce groupe de tête, poursuivi par McLaren en quatrième place. Mais Richie Ginter ne tient pas longtemps, l'Américain étant victime d'un problème de boîte de vitesse qui le passe au point mort. Il doit redémarrer et c'est Surtees, Clark et McLaren qui luttent pour la victoire. Le problème moteur de Clark semble s'être envolé et il prend la tête de course à Surtees, lequel ne lâche pas l'Écossais, avide de cette première place qui sera synonyme de premier succès. La Cooper de McLaren commence lentement à décrocher. Quelque chose ne va pas avec sa T66. Et voilà quoi. Sa suspension casse à l'amorce d'un virage rapide. McLaren se crache violemment, on le retrouve inconscient, mais plus de peur que de mal, le Néo-Zélandais se réveillera un peu plus tard à l'hôpital, en bonne santé. Avec quelques gros bobos quand même. Après les abandons de Chris Amon, s'étant aussi crashé et légèrement blessé à la suite d'une rupture de sa colonne de direction, et les pannes de quelques gros noms comme Hill et Gurney, Clark voit son moteur refaire des siennes et Surtees le dépasse aisément. Il avait déjà remporté 3 courses en championnat, mais c'est ici que le septuple champion du monde moto devient officiellement vainqueur en Formule 1. Richie Ginter est 3ème au terme d'un Grand Prix héroïque qu'il aura passé à piloter d'une seule main suite à son problème de boîte de vitesse. On a vu à quel point c'était fou de rouler à une seule main à Spa-Francorchamps, alors je vous laisse imaginer ce que ça donne sur la Nordschleife. John Surtees remporte le premier Grand Prix de Ferrari après un an de disette et surtout la première victoire depuis celle de Phil Hill à Monza en 61, date où Von Tripp et 14 spectateurs perdaient la vie. Une date que Ferrari est ravi d'oublier pour célébrer sa 100ème victoire en Formule 1, mais que Jim Clark, qui sauve sa 2ème place, doit encore supporter. Puisque, je vous le rappelle, les officiels l'avaient jugé coupable de cet incident. Ce rappel est d'autant plus douloureux que la manche suivante est à Monza. Surtees et Hill sont désormais les seuls à pouvoir priver Clark du titre, mais ils doivent impérativement gagner toutes les manches restantes pour le faire. La saison fut un véritable cauchemar pour le champion en titre, perdu entre un vieux châssis BRM dépassé et un nouveau capricieux à la fiabilité douteuse. Et par-dessus tout, un Richie Ginter comme coéquipier bien présent pour lui rappeler qu'il n'avait pas le droit de se relâcher. Quant à Surtees, on peut rêver avec sa troisième pole en F1, sa première pour Ferrari devant les Tifosi. Outre Lotus et Clark qui restent autant cachés des autorités que possible, cette épreuve est sous la controverse d'une vive contestation des pilotes quant au tracé emprunté. À l'époque, Monza avait trois tracés. Celui qu'on connaît aujourd'hui, avec quelques chicanes en moins, l'ovale, qui est toujours là aujourd'hui mais qui n'est plus utilisé, et le tracé combiné, qui regroupe les deux tracés en un seul tour, avec une séparation au milieu de la ligne droite. Le tour commence du côté gauche de la piste, on fait un tour du circuit normal, qui se termine par la Parabolica, et renvoie sur la partie droite de la partie principale de la ligne droite, où se trouvent les stands. Le tour continue et au lieu de poursuivre sur la partie normale, le tracé renvoie sur l'ovale, lequel conclut le tour en ramenant sur la partie gauche de la ligne droite. Les pilotes protestaient contre cette version dangereuse et archaïque, mais en vain. La course commence avec Clark qui prend la tête de course, mais il se refait dépasser par Hill et Surtees plus rapide en ligne droite. Graham Hill ne tient que trois petits tours avant de se faire dépasser par Surtees et Clark, perdant ensuite contact avec eux. Surtees donne son maximum, mais Clark reste collé à lui, aidé par l'aspiration surpuissante que donne ce circuit. Mais c'est terminé pour l'anglais. Son moteur explose sous les hurlements des tifosi. Clark, privé d'aspiration, se fait rattraper par Gurney et Hill. Les trois pilotes se relaient en tête de course pendant une dizaine de tours, mais, une fois n'est pas coutume, Clark est épargné par la mécanique. Hill maudit son embrayage et Gurney son moteur. Ginter est deuxième pour BRM et McLaren troisième pour Cooper. Il ne faisait aucun doute que Jim Clark serait un jour champion du monde. La suprématie qu'il affichait cette saison dépassait celle de Salotus, qui remporte à son tour son premier titre constructeur. Les fans, observateurs, les équipes et autres pilotes le disaient tous. Il y a quelque chose de magique dans ce pilote. Comment ce simple et timide fermier des Landes écossais peut être aussi bon ? Ses pneus ne crissent pas, il ne donne aucune correction à son volant, il n'a pas l'air d'être à l'attaque tout le temps comme ses rivaux, tout semble si simple, si évident, si doux. Les caméras et les appareils photo capturent cette légendaire image de Jimmy qui traîne Colin Chapman dans un tour de célébration à Monza. À la maison, il est accueilli en héros. Toute une ville a organisé une parade pour le saluer sans vraiment comprendre comment un fermier, comme eux, un conducteur de tracteur comme n'importe lequel d'entre eux, est champion du monde. Mais Clark n'a pas le droit de célébrer. À peine Chapman et lui descendent de la Lotus après leur tour parade qu'un huissier vient lui livrer une citation à comparaître devant un juge. On cherche toujours le coupable pour l'incident de 61. Après des heures d'entretien, Clark est de retour, mais l'alcool ne sera pas à la fête de ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie. L'alcool est là pour noyer les larmes de ce terrible souvenir et la colère de Jimmy qui n'a jamais pu supporter le fait d'être accusé dans cette affaire qui lui valait une énorme pression médiatique et de perdre le respect de certains de ses pairs.
They questioned me for 3 hours. I made a complete statement in English and signed it. And what I'm expected to remember about the accident now that I didn't last year, I wouldn't know.
Whether you like it or not, buddy, you're a news figure. You've been involved in a serious thing like that. We've got to badger you. I mean, what do you feel about this? And how do you?
Well, what I say to that is, why the hell don't they come and badger me after I've won a good race? Mm-hmm. All right. Mm-hmm. Why don't they badger me when I've done something good? They don't want to know when you're doing well or doing anything right. It's when you're up in the shit they want to know.
Entre cet accident et sa défaite au Mondial en 62, Stirling Moss avait qualifié Jim Clark de pilote immature qui n'avait pas la stature d'un champion. Certains diront qu'il est jaloux de ne pas avoir gagné de titre. De retour avec sa BRM P57 au Watkins Glen, Graham Hill signe sa deuxième pole position de la saison. Et comme si le sort lui riait au visage, le nouveau champion du monde, Jim Clark, cale au départ. Le temps de redémarrer le moteur, Jim Clark a déjà un tour de retard sur tout le monde. Hill mène l'épreuve devant l'autre BRM de Ginter et la Ferrari de Surtees. Ce dernier est très pressant et arrive à prendre les commandes de course après une intense lutte contre les BRM. Derrière les Brabhams de Gurney et Brabham luttent contre Ginter, mais quand ça veut pas, ça veut pas. La barre anti-rouillis de Hill casse, il parvient à garder le contrôle, mais il a un sérieux handicap et Surtees s'envole. Mais au 82e des 110 tours, la chance salue le moustachu lorsqu'il voit la Ferrari rentrer au stand sur une panne moteur. Comme la saison avait débuté, c'est un doublé BRM avec Hill qui l'emporte devant Ginter. Entre-temps, cette course de galère. Ah, si seulement la réussite avait été là. Ou est-ce un manque de réussite? Parti avec un tour de retard, Jim Clark termine à une improbable troisième place, complétant le podium et prouvant encore une fois sa supériorité avec le meilleur tour. Brabham est au pied du podium devant la Ferrari de Bandini et la Porsche de Karel Godin de Beaufort. Je vous épargnerai le récit du troisième et dernier grand chelem de Clark cette saison. Il égale ainsi le record de Ascari de trois grands chelems sur une saison, record qui sera égalé par Mansell en 92, Hamilton en 2017 et à nouveau par ce même Jim Clark en 65, mais qui ne sera jamais battu. Enfin, je dis ça en 2023, il y a encore Verstappen, on sait jamais. Je le mentionne au cas où. Brabham prend son premier podium de la saison et le premier avec son équipe et termine devant Ginter. Et il est quatrième devant Bonnier et Gurney. La dernière manche de la saison 63 se tenait en Afrique du Sud sur le tracé de East London. À l'image de cette fin de saison, Clark s'envole et domine, mais la Ferrari de Surtees n'est pas loin alors que Brabham perd du terrain. La seconde Brabham de Gurney passe Surtees qui finit par abandonner. Jim Clark améliore le record de 6 victoires sur une saison détenu par Ascari avec son 7e et dernier succès de la saison. Ce record de 7 victoires sur une saison a tenu jusqu'en 1992 lorsque Mansell remporta son seul titre avec 9 succès. Gurney et Hill complètent le podium, McLaren est 4e devant Bandini et Bonnier. Alors que Lotus prend la coupe constructeur devant BRM, Brabham, Ferrari et Cooper, Clark est champion avec 54 points. Grâce à 3 bonnes dernières courses, Graham Hill prend la 2e place avec 29 points, à égalité avec son coéquipier Richie Ginter. Surtees est 4e devant Gurney, McLaren, Brabham et Mags, Bonnier 9e, tandis que Ines Ayrland et Lorenzo Bandini se partagent la 10e place. Aucun pilote n'a jamais autant dominé la scène internationale comme Jim Clark l'a fait. Même quand ses Lotus n'étaient pas au point ou manquaient de fiabilité, il n'était pas risqué de mettre un petit billet sur une victoire de sa part. Champion en Tasman Series, un autre championnat avec des Formule 1, champion en BTCC, des victoires aux États-Unis, aux 500 miles d'Indianapolis, en Formule 2, et j'en passe plus de 44 victoires en Grand Prix en comptant les épreuves hors championnat. Sa mort lors d'une anecdotique course de Formule 2 en 68 a purement chamboulé le sport automobile. Les pilotes ont pris conscience que ce qui n'arrive qu'aux autres pouvait même arriver au pilote le plus parfait qui soit, qui ne commettait jamais d'erreur.
Je me souviens exactement où j'étais sur le circuit quand un homme est arrivé dans un Alfa Romeo et il a dit Jim Clark est mort. C'était tout ce qu'il pouvait dire. Je pouvais appeler Helen et je l'ai appelée. And we never spoke. Just like that. Even now. Yeah. Silly.
I'd like to get back here much more often, but unfortunately at the moment I find that racing commitments and other commitments don't allow much time. It's a great relaxation to get back here and very much the opposite.
Les organisateurs durent affronter la rage des spectateurs de voir leur pilote favori perdre la vie. Son compatriote Jackie Stewart, qui avait entamé un mouvement pour forcer l'amélioration de la sécurité, touchait de nouveaux militants et réussit à donner de la crédibilité à ses actions. À son grand désespoir, Stewart aura régulièrement de nouveaux arguments à faire valoir dans sa mission. On note aussi la mort d'un autre champion du monde avec Jochen Rindt en 1970. Le brillant Bruce McLaren n'avait pas la réussite de son côté, mais ce qu'il a accompli en tant qu'homme est sans discussion au sommet de ce qui a été fait au sommet du sport automobile. Sa mort lors d'une simple séance d'essai fut une réelle tragédie et une épreuve pour son écurie qui donna son maximum pour faire perdurer son héritage. Le jeune Lorenzo Bandini avait un beau potentiel, mais quitte le monde trop tôt avec une seule victoire suite à un accident fatal dans un horrible accident à Monaco. Pour le reste, l'excellent rival de Hill, Richie Ginter, quitte la Formule 1 avec un seul succès et c'est une bien maigre récompense pour l'Américain. Son compatriote Dan Gurney avait également contribué aux premières gloires de la grande équipe Brabham et son amour pour les voitures le conduisit à remporter, à son tour, un Grand Prix avec une voiture de sa conception dans l'équipe Eagle en 1967. John Surtees emportera le titre l'année suivante face à Graham Hill et Jim Clark grâce au retour en force de Ferrari sous la coupelle technique de Mauro Forghieri, devenant le premier champion du monde en moto et en auto. Quant à Graham, ses multiples succès à Monaco et son statut d'unique détenteur de la triple couronne en dit long. Mais allez quand même voir mon émission sur Graham Hill parce que... je sais pas les vues... Bref, j'espère que vous aurez passé un moment agréable dans cette rétrospective. De nombreuses révolutions techniques vont frapper la Formule 1 d'ici notre prochain rendez-vous dans 10 ans. Je veux pas vous faire saliver, mais entre l'émergence de l'écurie McLaren, portée par Peter Revson et Denny Hulme, l'éclosion de jeunes talents comme François Sever, Carlos Reutemann ou James Hunt, et la lutte à laquelle nous assisterons entre les héritiers de Clark chez Lotus avec Ronnie Peterson et Emerson Fittipaldi face au numéro 1 de l'époque, Jackie Stewart, essayez quand même de pas trop en faire couler sur le menton. Voilà. Merci de votre écoute et à très bientôt.
Very, very tough opponent. He not only can drive quickly, but he can race. And there's that little distinction from being able to conduct a car quickly around a circuit. And then race at the same time.
Now you know Clark's listening, do you? Up on board the TV in Carlisle. Have you anything you'd like to say to him?
Yes, I hope he goes back to farming.